est 5h30 à Kinshasa. Merci d'écouter RFI, 4h30 en temps universel. À une demi-heure d'information africaine avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Et direction la RDC pour débuter le journal, et à grande vitesse s'il vous plaît, car le gouvernement congolais souhaite aller plus vite manifestement.
Eh oui, aller plus vite dans la conclusion d'un accord sur ces minerais rares avec Washington. C'est le souhait de Kinshasa en effet, qui a mis en place pour cela une cellule de coordination au sein du cabinet de la présidence. Sa mission sera d'encadrer ces négociations, on vous explique tout dans quelques instants. Une campagne électorale menée d'une main de fer par le CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi. C'est ce que dénonce l'opposition burundaise au lendemain de la fin de cette campagne en amont des élections législatives qui sont prévues jeudi. Un voyage en enfer ou presque, un voyage en Tanzanie. 3 jours dans les geôles secrètes des services de sécurité où sont administrées les pires tortures. Le sort et les témoignages des défenseurs des droits de l'homme Boniface Mwangi et Agata Ratouahir. 8 des pires crises de déplacement de population au monde ont pour décor le continent africain. En tête de ces crises oubliées, le Cameroun, nous dit aujourd'hui le Conseil norvégien pour les réfugiés. L'ONG publie sa liste annuelle. 2 cris d'alerte également lancés par les pêcheurs sur la raréfaction du poisson. Lancé ces cris par les pêcheurs au Sénégal d'abord, vous l'entendrez, et puis au Maroc, ce sera notre dossier Afrique Économie. Le Maroc qui engrange par ailleurs les soutiens autour du Sahara occidental, le dernier en date celui du Royaume-Uni annoncé dimanche. On décryptera avec notre invité après le journal, le professeur Mohamed Benamou. Des terrains plus légers également avec un festival jazz en Tunisie et puis l'actu sport bien sûr. Vous êtes les bienvenus sur la Radio du Monde. Aller plus vite encore pour conclure le deal minier envisagé avec Washington. C'est donc le souhait des autorités de RDC qui aimeraient manifestement accélérer les négociations autour de ces minerais rares tant convoités par les États-Unis. Discussions qui se tiennent en parallèle des pourparlers de paix menés avec le Rwanda sous l'impulsion donc de la diplomatie américaine. Et pour mieux structurer les échanges, Patient Ligodi, on le disait, une cellule de coordination stratégique a été mise en place à Kinshasa au sein du cabinet du président.
Ce que l'on sait, c'est que Félix Tshisekedi tient énormément à l'accord stratégique sur les minerais critiques, un accord qui pourrait non seulement renforcer ses liens avec l'administration Trump, mais surtout impliquer davantage Washington dans la résolution de la crise sécuritaire à l'est du pays. Pour cela, Félix Tshisekedi a décidé de centraliser les actions et de maximiser toutes les chances de succès. À la direction de la cellule des coordinations stratégiques, on retrouve 3 membres du cabinet et du président de la République, 2 ministres, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État aux Affaires étrangères, et Kizitopa Kabumba, ministre des Mines. Il y a également Guy Robert Lukaman Kundi, président du conseil d'administration de Gécamines SA, la plus grande société minière de la RDC. Cette direction est épaulée par un secrétariat technique et un groupe d'experts, en tout 22 personnes, chargées notamment de rédiger des rapports périodiques sur l'avancée de négociations et les résultats de la mise en œuvre de l'accord. Le mois de juin est considéré comme crucial. Les Américains espèrent en effet que ce mois verra la conclusion d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Mais avant cela, les deux capitales veulent progresser sur les accords commerciaux et miniers avec Washington.
Et Patient Ligodi, un espace politique fermé, réprimé, avec une commission électorale aux ordres du pouvoir. Le bilan pour le moins critique de l'opposition burundaise au terme de 3 semaines de campagne électorale. Campagne qui s'est refermée hier en amont des élections législatives attendues après-demain, jeudi. Un temps pour lequel le principal opposant, Agathon Rwasa, a été mis à l'écart. Un temps largement dominé par le CNDD-FDD, le parti qui dirige le pays depuis 20 ans, Esdras Dikoumana.
Pénurie de carburant, menaces, intimidations et même agressions physiques par les militants du CNDD-FDD au pouvoir. Les partis d'opposition ne cachent pas leur frustration après 3 semaines de campagne sur le terrain. Franchement, la campagne a été très difficile pour nous, à vous, Patrick Nkurunziza, le président de la coalition Burundi Bravo OC, en Burundi pour tous en français. C'est un autre son de cloche que l'on entend du côté du CNDD-FDD aux moyens quasi illimités et qui a mené une campagne hors norme qui a éclipsé tous ses concurrents. Nous avons trop souffert pour arriver à la tête de ce pays, on ne va rien lâcher, ou encore nous resterons au pouvoir jusqu'au retour de Jésus, chantent en boucle les militants du parti au pouvoir, en signe qu'ils sont prêts à tout pour rester à la tête du Burundi selon l'opposition, ce qu'est ni le CNDD-FDD. Mais signe que les jeux semblent jouer d'avance s'inquiète un diplomate, tous les médias émettront en synergie le jour du double scrutin, et c'est une commission dirigée par un responsable du ministère de la Communication qui a désigné les journalistes qui seront sur le terrain pour couvrir ces élections. ils n'auront pas également le droit de donner des résultats autres que ceux proclamés par la CENI, au risque de se voir infliger une peine de 5 à 10 ans de prison selon le code électoral.
Esdras Dikoumana, les témoignages sont réellement saisissants. Les récits livrés hier dans la capitale kényane Nairobi par les deux défenseurs des droits de l'homme Boniface Mwangi et Agathe Atuhaire, respectivement kényans et ougandaises, ils et elles ont été enlevés et détenus par les forces de sécurité tanzaniennes alors qu'ils étaient venus assister à Dar es Salaam au procès de l'opposant Tundu Lissu. Leur voyage a finalement débouché sur 3 jours de détention dans le secret le plus total avant d'être expulsés de Tanzanie. 3 jours proches de l'enfer, Gaël Lalex.
C'est à leur hôtel que Boniface Mwangi et Agathe Atuhaire sont arrêtés. Après un passage à l'immigration, puis dans un poste de police, des agents de la sécurité intérieure viennent les chercher. Dans la nuit, les mains attachées, les yeux bandés, ils sont emmenés dans un immeuble inconnu. Là, ils seront dénudés, puis pendus la tête en bas, Boniface Mwangi.
Là, ils ont commencé à frapper violemment sur mes pieds, tout en me questionnant. Quel est ton nom? D'où viens-tu? Qui t'a envoyé? Pourquoi es-tu venu déstabiliser notre pays? Puis un type a mis du lubrifiant dans mon derrière et a commencé à insérer des objets. Et il me demandait de dire « merci Samia ». Alors j'ai remercié la présidente tanzanienne.
Non loin, Agathe Atuhaire subit exactement les mêmes sévices. Durant ces 3 jours de détention, l'ambassade ougandaise ne s'inquiète pas de son sort. Pour Agathe Atuhaire, c'est toute la région d'Afrique de l'Est qui est complice.
Je savais que le jour où je serais torturée viendrait. Je vis avec cette inquiétude en Ouganda. Mais je ne savais pas que ça arriverait en Tanzanie, où je n'ai absolument rien fait, même pas manifesté. Les officiels tanzaniens n'avaient pas peur du tout d'appeler des brutes pour faire ce qu'ils nous ont fait. Pour moi, c'est un niveau d'impunité que je ne saurais imaginer. En tant que citoyen d'Afrique de l'Est, on ne peut compter que sur nous-mêmes.
Dans un communiqué hier, un collectif d'organisations de la société civile de la région a demandé à la communauté internationale de se mobiliser contre les violences d'État en Afrique de l'Est. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Attirer l'attention sur les crises humaines les plus négligées, c'est l'objectif du Norwegian Refugee Council qui publie aujourd'hui, comme chaque année, sa liste des 10 situations ayant entraîné les plus grands déplacements de population. Et triste constat, 8 pays sur 10 se trouvent en Afrique, des crises pour lesquelles les besoins de financement sont immenses, à la mesure du manque de traitement médiatique et du manque d'action politique, selon l'ONG. Amélie Tulé, c'est vous qui avez regardé cette liste pour nous. Quel est donc le pays qui alerte le plus ce Conseil norvégien pour les réfugiés ?
En tête, le Cameroun, touché par 3 crises distinctes et prolongées, les groupes armés dans le nord, la violence dans les 2 régions anglophones et l'instabilité qui se propage depuis la Centrafrique à l'est. Ainsi, l'an passé, pour plus d'un million de déplacés internes et près d'un demi-million de réfugiés, moins de la moitié des besoins ont été couverts et la situation humanitaire du Cameroun a très peu retenu l'attention des médias. Un parfait exemple des effets de la négligence mondiale, selon le Norwegian Refugee Council. Viennent ensuite l'Éthiopie, le Mozambique, le Burkina Faso, le Mali, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et la Somalie. Seules exceptions non africaines dans ce classement, l'Iran et le Honduras. À noter que c'est la première fois que l'Ouganda apparaît, l'Ouganda qui joue un rôle de soupape dans la région, absorbant les retombées des crises voisines et accueillant des réfugiés congolais, soudanais, sud-soudanais. Malgré sa politique progressiste en faveur de ces réfugiés, l'Ouganda approche le point de rupture, selon l'ONG. Le nombre de réfugiés devant dépasser les 2 millions d'ici la fin de l'année, alors que les financements et l'attention de la communauté internationale ne cessent de baisser.
Les explications d'Amélie Tulé. Au Bénin, Steve Amoussou, condamné à 2 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende. Le cybermilitant a été reconnu coupable de cyberharcèlement, incitation à la rébellion, diffusion de fausses nouvelles et injures contre un groupe politique. Steve Amoussou, reconnu coupable d'être derrière le compte Frère Unvi sur les réseaux sociaux, auteur d'audio virulent contre le président Patrice Talon. En Guinée, la haute autorité de la communication ordonne le retrait de la chaîne West Africa TV, des bouquets Canal+ et Star Times. Décision prise hier et motivée par des propos qui ont été diffusés vendredi dernier dans l'émission Star en ligne. Des propos qui, selon la HAC, porteraient atteinte aux bonnes mœurs et à la vie privée de tierces personnes. Rappelons que Mamadou Talisma Diallo, alias William Campbell, l'animateur de cette émission, avait déjà été suspendu l'an passé pour avoir injurié l'un de ses invités. Cet appel lancé au Sénégal à présent, le cri des acteurs de la pêche artisanale qui interpellent les autorités sur l'urgence, selon eux, de réactualiser la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises et sur l'urgence de renforcer les contrôles également, car officiellement, ils sont au nombre de 151 ces navires. La liste a été publiée il y a tout juste un an. Mais à en croire le président de la plateforme des acteurs de la pêche artisanale du Sénégal, les faits seraient bien différents. Je vous propose d'écouter Mamadou Sarr.
La liste qu'ils nous ont donnée, c'est pas exhaustif. C'est une liste qui est là, mais il y a plus de bateaux que ça. On sait pas qui fait quoi. C'est la destruction totale de nos ressources. C'est-à-dire que si on avait le nombre, mais au moins à peu près, on peut dire qui fait quoi, quelles sont les prises, les licences, tout ça. Donc, ça n'existe pas. Nous, en tant qu'acteurs, on donne l'alerte, mais il y a des insuffisances sur la gestion et la réglementation, l'application. On peut pas faire des lois et des réglementations et ne pas les appliquer. Il y a le contrôle, la surveillance et le suivi. C'est-à-dire que contrôler, c'est quelque chose qui doit être là en permanence. Nous, on voit la Mauritanie qui contrôle bien ses eaux. Tu peux pas passer deux jours sans être contrôlé. Et au Sénégal, tu peux passer, par exemple, une semaine, un mois sans avoir de navire de contrôle. Ça, c'est pas sérieux. Donc, il y a un manquement. Nous-mêmes, en tant que pêcheurs artisanaux, nous aussi, nous devons être contrôlés. Ça veut dire que nous devons être réglementés, voir qui fait quoi, le nombre de plus au Sénégal, le nombre d'acteurs. Ça aussi, on pousse l'État à faire ça.
Mamadou Sarr, le président de la plateforme des acteurs de la pêche artisanale au Sénégal. À Dakar, il est 4h41, 6h41 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI, Sébastien Duhamel.
Restez avec nous, bien sûr, sur la Radio du Monde. Dans un petit peu plus de 12 minutes, vous retrouverez Andréane Mellard pour RFI Matin. Mais d'abord, la passion jazz en Tunisie pour notre reportage à l'occasion du nouveau Jazzit Festival dont la première édition a eu lieu ce week-end à Tunis. On assistera à une masterclass. Un pays de plus qui penche en faveur du Maroc sur la question du Sahara occidental. Le chef de la diplomatie britannique l'a annoncé dimanche à Rabat. Londres soutient le plan d'autonomie proposé par le royaume chérifien. On décryptera les conséquences côté marocain avec notre invité, le professeur Mohamed Benhamou. Le Sahara occidental, vital d'ailleurs pour la pêche marocaine. Ça, on le verra avec notre dossier Afrique Économie. 80% du poisson marocain est pêché dans ces eaux, mais la ressource vient à manquer face à la pêche intensive, entre autres. L'humeur de Maman également au programme, bien sûr, pour se détendre, mais avant tout ça, c'est l'heure des sports, comme tous les jours. Et Olivier Pron nous a rejoint pour cela. Bonjour Olivier.
Bonjour Sébastien.
Du foot au programme.
Bonjour à tous.
Avec vous, oui. Avec un Congolais, héros, s'il vous plaît, de la Ligue des Champions.
Ouais, soulier d'or de la compétition, carrément. Fiston Kalala Mayele, l'attaquant de Pyramids FC, sacré dimanche, roi du continent, aux dépens des Mamelodi Sundowns sud-africains. Il est le deuxième Congolais à marquer 9 buts dans une Ligue des Champions en une saison après. Ouais, Trésor Mputu en 2007. Une performance qui met en joie au pays de Lubumbashi et du Katanga, où il est né, à Kinshasa, où il s'est révélé avec l'ASV Club, dans une compétition où les Congolais n'ont plus brillé autant depuis 2015, l'année du dernier sacre du TP Mazembe. Cette distinction personnelle passe pour une consolation nationale à Lubumbashi, Pascal Mwangala.
Fiston Kalala Mayele, sur les traces de Trésor Mputu, c'est ainsi que certains Congolais voient l'attaquant de Pyramide FC d'Égypte. Jonathan Masiala est journaliste sportif à Top Congo FM de Kinshasa.
Il me rappelle beaucoup plus Trésor Mputu, qui a marqué plus de 40 buts dans ses deux compétitions, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Consécration pour un joueur qui est venu d'un milieu difficile avec le football congolais. Et là, ça lui ouvre peut-être les portes d'un ballon d'or de joueurs évoluant sur le continent.
Pour Dieudonné Batutela, un autre journaliste congolais, la marge de progression de Fiston Kalala est toute particulière.
Fiston Mayele, c'était un attaquant qui aimait la bagarre, les duels aériens, il marquait trop de la tête. Aujourd'hui, on a un attaquant qui a fait progresser son sens du placement, il aime les défis et il a réussi à le relever.
Ce qui n'est pas une surprise pour Florent Ibengue, ancien entraîneur de Mayele chez Vita Club et en sélection de RDC.
Fiston, c'est un formidable chasseur de but. C'est pas étonnant qu'il soit aussi meilleur buteur dans la compétition africaine. Il a marqué des buts aussi beaux à Kolwezi, donc c'est en lui. Et en plus, il améliore parce que c'est un gros travailleur.
Pour lui, avoir un Fiston Kalala Mayele au sommet de son art, c'est ce qui a permis à Pyramide FC de mettre à ses pieds tous ses conquérants au titre de champion d'Afrique. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
On continue de parler foot, Olivier. On parle du soulier d'or en Europe.
Ouais, en Turquie précisément, où le meilleur buteur en fin de saison du championnat turc, est Victor Osimhen. Le Nigérian a marqué 26 buts avec Galatasaray en Super League. 5 de plus que le Polonais Christophe Piatek. 6 devant le Marocain de Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri. Osimhen, champion de Turquie avec Galatasaray, a été aussi couronné meilleur joueur de ce championnat.
Et pendant ce temps, des joueurs qui vont à présent retrouver leur sélection.
Rien que des matchs amicaux sur le continent. Les Nigérians, tiens, vont aller affronter la Russie, par exemple. Et puis ça a commencé dès hier avec la Tunisie qui a dominé le Burkina Faso 2-0 à Rades. L'équipe de France, elle, s'apprête à disputer les demi-finales de la Ligue des Nations face à l'Espagne. Jeudi soir, là, on n'est pas tellement sur des matchs amicaux, c'est de la vraie compétition. Mmh. Avec de nouvelles têtes, notamment celle de Ryan Cherki, qui est appelé pour la première fois par le sélectionneur Didier Deschamps. Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France Espoir, le Lyonnais pourrait honorer sa première sélection avec l'équipe A, celle qui décide de la suite hein, et qui est définitive. Également éligible aux sélections italiennes par son père et algériennes par sa mère, Ryan Cherki était convoité par la fédération algérienne. Mais le joueur de 21 ans a toujours imaginé porter le maillot bleu. Il l'a confirmé hier en conférence de presse.
J'avais un plan que j'ai suivi à la lettre, c'est-à-dire me préparer à toute éventualité, être prêt. Et aujourd'hui, c'est bien d'être appelé en A, mais c'est que le début, j'espère, d'une longue histoire. L'important, c'est de rester. L'important, c'est de prouver pourquoi j'ai été appelé. Donc, effectivement, je suis content.
Et on verra s'il joue cette Espagne-France en Allemagne jeudi, 18h45 TU.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci, Olivier Prou. On vous retrouve tout à l'heure sur RFI. En attendant, 4h46 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale et les quelques 44 millions d'électeurs sud-coréens qui ont commencé à voter pour désigner leur nouveau président et mettre fin à 6 mois de chaos politique. Les bureaux de vote ferment tout à l'heure à 11h en temps universel, un moment où les premiers sondages sortis des urnes devraient dévoiler le probable vainqueur. Antonio Guterres, qui appelle de son côté à une enquête indépendante sur des tirs ayant fait au moins 31 morts et 176 blessés près d'un centre d'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Par ailleurs, la défense civile palestinienne annonce la mort hier de 14 personnes, parmi lesquelles 6 enfants et 3 femmes, en plus des 20 personnes qui se trouvent encore sous les décombres après un bombardement israélien sur une habitation à Jabalia, dans le nord de Gaza. Et puis à Istanbul, Russes et Ukrainiens qui sont convenus d'échanger tous leurs prisonniers de guerre de moins de 25 ans ou grièvement blessés, ainsi que des milliers de corps de soldats tués, sans parvenir toutefois à s'accorder sur un cessez-le-feu. Ces discussions sous médiation turque n'ont duré qu'une heure, mais l'Ukraine a proposé une nouvelle rencontre entre le 20 et le 30 juin. Des scènes beaucoup plus festives, l'actualité musique marquée en Tunisie par ce nouveau festival de jazz qui était organisé ce week-end, le Jazzit Festival à la Cité de la Culture à Tunis. Il a attiré plusieurs centaines de mélomanes et de curieux avec une programmation internationale, mais qui a aussi offert aux jeunes talents locaux une opportunité d'apprendre des meilleurs au travers de masterclass notamment proposées par les organisateurs du festival. C'est notre reportage du jour, il est signé Lilia Blaise.
Devant un public de jeunes musiciens tunisiens, le guitariste américain Mark Whitfield présente une masterclass. Au programme, conseils et exemples de composition. Pour Malek Larroy, musicien de jazz et directeur artistique du festival avec le label Jazzit Records, il s'agit de perpétuer une tradition de culture du jazz en Tunisie qui avait commencé avec le festival de jazz à Tabarka en 1973.
Et moi, j'ai grandi dans cette ambiance de masterclass, d'after show. Et donc ça, pour moi, c'est ça la liberté quoi, c'est que véhicule cette musique, l'union quoi. Et c'est ce qu'on veut vraiment véhiculer à travers ce festival.
Il souhaite aider la scène jazz tunisienne à se renforcer.
Pour nous, la scène n'est pas assez structurée, il n'y a pas de label. Et c'est vrai que pour les circonstances, les conditions, l'environnement, il est pas, presque hostile, très difficile quoi, pour la création d'un label. Économiquement c'est difficile, la distribution est très compliquée, le manque de festivals, donc voilà, il y a beaucoup de challenges par rapport à ça.
Neder, 24 ans, étudiant à l'Institut supérieur de musique, improvise avec ses camarades à la guitare.
Je cherche toujours des masterclass ou des sessions de jam pour la technique et l'inspiration. Même s'il existe quelques maîtres du jazz tunisien, ce n'est pas vraiment une musique qu'on apprend au conservatoire. Il n'y a pas de formation. C'est surtout un apprentissage en autodidacte.
Si le jazz reste confidentiel en Tunisie, une jeune génération de musiciens espère percer dans le pays, comme Ahmed Dridi, 29 ans, originaire de Zaouen, au nord de la Tunisie.
On est motivé, même si la culture du jazz n'est pas hyper répandue, mais c'est plus par ignorance que par manque d'intérêt pour cette musique. Par exemple, si j'invite des amis à voir des lives de jazz, au début ils viennent sans vraiment connaître, mais après ils reviennent. Et au sein des jeunes, il se crée une communauté d'amateurs.
Et pour encourager cette dynamique, le jeune musicien Aymen Difawi, 27 ans et originaire de Kairouan, est monté sur scène pour échanger quelques sons de guitare avec le légendaire Mark Whitfield à la clôture du festival. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
La passion jazz en Tunisie, notre reportage à retrouver, à partager, bien sûr, sur Internet, comme tous nos contenus. Et on revient maintenant sur cette annonce du Royaume-Uni qui rejoint les États-Unis et la France notamment. Londres s'aligne sur la position marocaine en ce qui concerne le Sahara occidental. Cette ancienne colonie espagnole, toujours disputée par le Front Polisario, soutenue par l'Algérie. Alors que l'ONU, rappelons-le, préconise de son côté l'autodétermination pour le peuple sahraoui. Dossier qui envenime de longue date les relations entre les voisins marocains et algériens. Et on le voit, la balance semble désormais largement penchée en faveur du royaume chérif. Alors, pour analyser tout ça, pour comprendre, on reçoit ce matin le professeur Mohamed Benamou, qui préside le Centre marocain des études stratégiques. Christophe Boisbouvier lui a tout d'abord demandé ce qu'il pensait de cette décision britannique.
C'est une décision qui marque un tournant. Elle s'inscrit dans une dynamique où déjà deux États membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont eu la même position, à savoir les États-Unis d'Amérique et la France, ce qui fait que trois États membres sur cinq soutiennent le plan d'autonomie que le Maroc a proposé pour un règlement définitif du problème imposé au Maroc par son voisin.
Dans un communiqué, l'Algérie regrette ce soutien de la Grande-Bretagne au plan d'autonomie marocain, mais elle se console en précisant que la Grande-Bretagne continue d'inscrire son action dans le cadre des efforts de l'ONU.
Je comprends que l'Algérie subit plusieurs défaites diplomatiques. Maintenant, je pense que le réalisme veut que l'Algérie un petit peu sorte de cette approche qui est caduque et dépassée. On doit être tourné vers l'avenir. Nous avons besoin d'un règlement définitif et durable de ce différend régional. Je pense que c'est un moment où, en Algérie, il faut revenir à la raison et on peut se tromper sur un choix. Le plus grave, c'est de persister dans le mauvais choix. Je pense que la partie, si on peut donc la prendre comme une partie d'échec, se corse de plus en plus. L'Algérie, peut-être, elle peut tenter encore de sauver sa mise pour ne pas se retrouver échec et mat. Et il est temps que l'Algérie jette l'éponge.
Entretien de Christophe Boisbouvier avec notre invité, le professeur Benamou, à retrouver plus en longueur vers 7h45 heure de Paris, c'est-à-dire dans une petite cinquantaine de minutes. Eh oui, car il est 6h52 bientôt à Paris. Mais on continue pour le moment de parler du Maroc pour notre rendez-vous avec l'économie et du Sahara occidental indirectement aussi d'ailleurs, car on parle du secteur halieutique à présent, important pour l'économie du royaume chérifien, premier producteur africain de produits de la mer et premier producteur mondial de sardines. Mais le secteur traverse toutefois une crise structurelle. Les stocks de poissons diminuent entre 20 et 30% de baisse côté Méditerranée. Et au final, près de 80% des captures de poissons sont effectuées dans les eaux du Sahara occidental où la raréfaction des ressources se fait également ressentir face à la pêche intensive notamment. C'est un dossier de François Humfer-Kataji.
Dans le port de Bouchedour, les pirogues colorées des pêcheurs artisanaux côtoient les chalutiers spécialisés dans la capture de la sardine et du maquereau. Tous les pêcheurs font le même constat, malgré l'augmentation du nombre d'unités de pêche, le poisson se fait rare.
Tout à fait, tout à fait. Ces changements climatiques, ils ont un petit peu impacté, je dirais, le stock. Et non pas le stock, mais plutôt les conditions de pêcherie de ce type de poisson, qui est le pélagique.
Ismaël Benazouz, chef division de développement à l'Agence nationale des ports.
Je pense qu'à travers le plan d'aménagement initié par le département de pêche et l'Institut de recherche halieutique, et à travers les campagnes de repos, là, sont destinées effectivement pour préserver la ressource halieutique et de gérer cette rareté, qu'on espérant qu'elle soit temporelle.
Pour Badr El-Moussaoui, président de la commune d'El Marsal Ayoun et patron d'une des 45 conserveries de poissons de la région, la question de la raréfaction des ressources se pose. Le volume du poisson pêché a diminué d'un tiers entre 2024 et 2023 à l'Ayoun.
Ça fait deux ans maintenant que les chiffres en baissent, surtout sur le débarquement de la pêche, surtout dans le poisson pélagique, mais on trouve que c'est tout à fait que c'est normal, c'est à cause de la changement climatique.
Selon les experts, le changement climatique n'est pas le seul facteur pour expliquer la raréfaction des ressources. La surpêche ou encore les effets des usines de dessalement pourraient participer à la diminution des stocks. Conserves, huile ou farine de poisson, au Maroc, 500 000 emplois directs ou indirects sont liés au secteur. Le maire de Darla, Erakheb Armotola, se veut toutefois rassurant.
C'est une question toujours avec l'évolution de la population, avec l'évolution de la demande cruciale pour la pêche. Mais il y a tout un programme lancé par le ministère de l'Agriculture et de Pêche concernant la préservation de ces ressources-là.
Dans un autre registre, la situation politique du territoire, considérée comme non autonome par l'ONU, pèse aussi sur le secteur. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé l'année dernière l'annulation des accords de pêche entre le Maroc et l'UE, estimant qu'ils avaient été établis, je cite, « sans le consentement du peuple du Sahara occidental ». François Mferkataji, de retour de Boujdour et Laayoune, RFI.
Allez, avant RFI matin avec Andréane Mélard dans quelques minutes. L'humeur de Maman pour le moment. Maman qui nous parle d'une phrase ce matin. Une phrase qui revient sans cesse dans la bouche des Gondouanais.
Oui, il y a un talent que tout visiteur en villégiature au Gondwana se doit de posséder et perfectionner. C'est l'art de capter les tendances et les leçons de survie en milieu gondwanais qui sont distillées toutes les secondes dans très très démocratique république pour qui sait écouter. Par exemple, il est une phrase que n'importe quel gondwanais a dite et entendue des milliers et des milliers de fois, que ce soit dans la bonne société gondwanaise ou, et surtout, en bas dans la société gondwanaise qui se cherche. Cette phrase, c'est, deux points, ouvrez les guillemets, c'est toi qui vas changer ce pays. Fermez les guillemets. Si t'es gondouanais, t'as instantanément saisi la substantifique moelle de cette saillie philosophique qui résume à elle seule le béaba de la survie en très très démocratique république. C'est toi qui vas changer ce pays est une question que tu reçois en réponse à toute parole ou acte que tu crois pouvoir poser pour améliorer les choses face aux difficultés de la vie au Gondwana. Dès que tu essaies de tenter d'essayer d'indiquer du doigt le chemin vers la destination pays normal, eh ben, on t'envoie à la face cette sentence, c'est toi qui vas changer ce pays. Eh oui, quand le policier t'arrête à un contrôle alors que tu n'as commis aucune infraction et que tous tes papiers sont en règle, ne dis pas à l'ami qui t'accompagne que toi, eh ben, tu ne glisseras aucun billet à ce policier parce que tu n'as rien fait et que s'il t'a juste arrêté pour te dire bonjour sur le bord de la route, eh ben, c'est gentil de sa part, mais toi, tu vas continuer ton chemin sans rien débourser. Eh ben, ton ami va te dire, tu as quel problème même? Donne-lui son billet et puis on va quitter ici. Et il conclura sa tirade avec la formule magique, c'est toi qui vas changer ce pays. De même, quand tu as répondu à un appel d'offres, tu as soumissionné dans les règles de l'art, ton dossier est béton, c'est le meilleur dossier, tu le sais, puisque tu es le seul à remplir toutes les conditions, mais au moment d'entendre ton nom cité comme le winner, eh ben, c'est celui d'un autre qui retentit, un autre qui n'a même pas candidaté, sorti du chapeau comme on dit. Tu veux gueuler, faire du raffut, parce que comme tu dis, eh ben, que c'est pas normal, c'est scandaleux, j'irai me plaindre partout pour faire valoir mes droits. Eh ben, c'est ta propre femme, c'est ton propre frère ou ton oncle qui te dira « C'est toi qui vas changer ce pays ?» C'est pas fini, mon ami. Au ministère, c'est toi le plus diplômé, le plus qualifié, mais c'est ce petit gars-là qui est ton patron parce que c'est le neveu d'un boss. C'est toi qui bosses tous les dossiers, mais ton boss, c'est un neveu de boss qui n'a pas tes diplômes. Dès que tu veux ouvrir la bouche, eh ben c'est ton chauffeur lui-même qui te dit « Boss, c'est toi qui vas changer ce pays ?» Je peux continuer comme ça avec des exemples des heures et des heures jusqu'à ce que tu comprennes que la réponse à cette question est non, c'est pas toi qui va changer ce pays, c'est le Gondwana qui va te changer. À demain.
Et oui, à demain, maman, et on se dépêche, car Andréane Mélard nous attend déjà pour RFI Matin. Juste le temps pour moi de remercier Laurent Hérault à la réalisation, Pierre Pinto à la rédaction en chef, et puis de saluer Abdou Mahamat Amadou, qui nous écoute depuis N'Djamena au Tchad et qui nous a écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. Merci à lui. Et tout de suite, place à RFI Matin. Bonjour, Andréane.
Bonjour, Sébastien, et merci, et bonjour à vous qui nous écoutez. RFI Matin, on va rester ensemble jusqu'à 10h au programme. Comme chaque jour, chroniques, reportages, les analyses de nos spécialistes, de nos invités, nos revues de la presse, l'infosport, la musique. À suivre d'abord le journal dans une minute, à la une, la Corée du Sud, où l'on vote en ce moment pour une présidentielle anticipée en pleine crise politique dans le pays. Belle journée, bon réveil à vous sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. La frontière avec le Bénin restera fermée. Au Niger, le général Tiani continue d'affirmer que Cotonou forme des terroristes pour déstabiliser son pays. Le Bénin dénonce des accusations graves et sans fondement. Comment décrisper la situation ? On en parle.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.